Chers auditeurs, chères auditrices, vous écoutez Transistor et c'est le 57e numéro d'En Spectateur. Navré de vous l'apprendre, mais c'est de nouveau moi qui animerai ce numéro. Il faut croire que Marie n'a pas encore compris que c'était dangereux. Mais pas de panique, Marie est toujours là, fidèle à son poste. Bonjour Marie.
Bonjour Antoine, et ravie d'être là.
Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'un spectacle un peu particulier, puisque c'est le premier spectacle qui se jouera dans la festive de l'école, et qu'il s'agit de l'adaptation d'une pièce aussi inconnue qu'intrigante, Le Suicidé de Nikolaï Erdmann. Voilà ce que nous dit la présentation du spectacle. En Russie soviétique, le bruit court que Semyon Semyonovitch a disparu et va se donner la mort. Aussitôt, une ribambelle de personnages grotesques s'écharpe pour rallier le symbole de se suicider à leur propre cause. À l'époque où nous sommes, ce que les vivants pensent, seuls les morts peuvent le dire.
D'accord, donc c'est une conclusion pour le moins déconcertante et c'est avec celle-ci que nous accueillons aujourd'hui celui qui nous offre ce spectacle puisqu'il le met en scène. Bonjour Yann.
Bonjour.
Et je note que c'est une année très Russie en scène cette année, hein, franchement.
C'est là aussi la réflexion que je me faisais. Alors Yann, pourquoi avoir choisi ce texte ?
Alors c'est un texte qui me trotte dans la tête, ça a été une rencontre avec ce texte qui date d'il y a quasiment 2 ans quand même. Et voilà, c'était l'envie de travailler avec ça par rapport à plein de questions théâtrales aussi que j'avais. Voilà.
Ça tombe sur une question que je comptais te poser. Qu'est-ce que tu essaies de nous faire passer à travers ce spectacle ?
Alors, ce que j'essaie de faire passer, je crois que... Déjà, rien que le texte, ça serait très bien. Mais donc voilà, déjà, je fais confiance au texte sur beaucoup de points. J'essaie pas d'aller plus loin que lui. Mais j'essaie de mettre en plus autre chose, c'est-à-dire des questions... Enfin, que j'ai au quotidien dans ma pratique, quoi. Donc, c'est-à-dire cette question de l'identité, en fait. Questionner l'identité, donc l'identité des personnages et l'identité des comédiens.
Ok. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus l'intrigue ?
Alors, l'intrigue de la pièce, ben, il n'y a pas tant de choses à dire en plus. C'est vraiment un Semyon qui est un peu un mec lambda, on va dire. Sauf qu'il est au chômage, et en Russie soviétique, c'est la pire honte, c'est d'être au chômage. Et donc, il y a une dispute, la pièce commence avec une dispute avec sa femme qui lui dit « Oui, c'est moi qui gagne l'argent pour le foyer, tu devrais avoir honte. » Et après ces mots-là, Semyon Semyonovitch, dans la nuit, disparaît. Et en fait, tout le monde pense que c'est qu'il est allé se suicider parce qu'il avait honte de sa condition. Mais en fait, on apprend plus tard qu'en fait, il était juste allé manger du saucisson. Il était parti dans la cuisine,
oui,
se couper une tranche de saucisson. Et mais c'est trop tard puisque, entre-temps, tout le mécanisme s'est mis en marche et tous les personnages se sont déjà mis en marche pour aller le voir et essayer de rallier sa mort à sa cause. Et donc, au final, Semyon va, ou non, hein, je ne dis pas, se laisser tenter par la mort.
D'accord, ok. Donc, pas spoiler.
Voilà.
Et Nikolaï Erdmann, c'est un auteur que je connais pas. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?
Alors, Nikolaï Erdmann, il n'est pas connu. Il a écrit 2 pièces.
Bon, ouf, c'est pas moi qui ai une culture générale défaillante.
Non, il est pas...
Vous connaissez pas non plus.
Non, il est effectivement pas connu. Il a écrit une première pièce, Le Mandat, qui avait eu quand même pas mal de succès à l'époque en Russie, notamment.
Mais, alors, c'est quelle époque à peu près ?
C'est 1925.
Ok.
Il a eu quand même un peu de succès, mais ça a quand même mis la puce à l'oreille. Enfin, il a commencé à être censuré, tranquillement, doucement. Et en fait, il a écrit sa 2e pièce, donc 3 ans après, 1928. Et là, par contre, cette pièce, elle a été censurée très vite, très très vite. Mais entre-temps, entre le moment où il a été censuré... En fait, quand il a été censuré, il y a eu d'autres metteurs en scène qui ont pris le texte, malgré tout, avant qu'il soit censuré. Et qui ont travaillé, donc, notamment des metteurs en scène très connus, Stanislavski et Meyerhold, qui sont deux grandes têtes du théâtre... de l'époque, et qui l'ont tous les deux mis en scène, et les deux ont été censurés lors de leur représentation, et Meyerhold, à la suite de cette représentation-là, il a été emprisonné, et puis après ça, il a été exécuté. Voilà, donc c'est quand même une pièce qui dit beaucoup de choses, donc c'est un peu l'historique, c'est un peu pour situer l'auteur, et donc l'auteur n'a rien écrit d'autre, parce qu'après il a été soumis... au silence, quoi.
Ouais, d'accord. À cause du contexte politique.
Ouais.
On a du mal à se figurer l'ambiance de la pièce, puisque la tonalité semble osciller entre tragédie, théâtre burlesque ou théâtre de l'absurde, plus radicalement. Quelle ambiance as-tu privilégiée dans ta mise en scène ?
Alors, Absurde, non. C'est pas D'accord. vraiment un théâtre de l'absurde. Je dirais que c'est plus burlesque, grotesque, en fait. Je fais pas trop la distinction entre ça. Pour moi, burlesque, c'est peut-être plus de la situation. Mais je pense que c'est pas... ça tient pas aux situations. Je pense que ça tient davantage aux personnages, en fait. Et donc, pour moi, c'est du grotesque. C'est-à-dire que c'est des personnages qui sont, dans l'écriture, déjà, tous extrêmes. C'est-à-dire qu'ils sont tous cons. Tous les personnages sont complètement cons.
D'accord, très bien.
Mais ils sont très intelligents, mais ils sont cons dans le fait qu'ils ont tous une brèche, en fait. Mais une brèche énorme. Enfin, une brèche qui est visible à des kilomètres. C'est-à-dire que va y en avoir une, dès qu'on va lui parler de corps, elle va se... de corps et de beauté, elle va partir dans tous ses états. Il y en a un, c'est dès qu'on parle du pouvoir, il va partir dans tous ses états. Il y a un prêtre qui, dès qu'on lui montre une femme, il part dans tous ses états. Enfin, voilà, c'est un peu des personnages qui ont tous un pet au casque, on va dire.
D'accord, voilà. Ouais.
Et donc, il y a ce côté-là qui est très drôle. Et dans l'écriture qui est complètement assumée, qui va vraiment presque des fois dans le boulevard, presque on dirait du Fedo des fois. C'est très très dynamique. Et en même temps, tout le long, il y a une trame qui se dessine, donc politique, ce qui fait que la pièce a été censurée quand même, qui est assez grave en fait, qui dit à la fois plein de choses mais qui ne dit rien. Et c'est pour ça qu'elle est dangereuse, c'est parce que cette pièce ne dit rien en fait. Ne dit rien sur la question de la révolution, sur la question du pouvoir. Et c'est en ça qu'elle est, je pense, assez dangereuse.
Ok. Alors maintenant, j'aimerais bien qu'on revienne sur le visuel de l'affiche qui m'a personnellement intriguée. C'est rare que je pose des questions sur les affiches, mais là, quand même, on a cette moustache et ce soutien-gorge. Est-ce que ça dit quelque chose de la pièce ?
Alors, oui, ça dit quelque chose, mais attention, tout n'est pas vrai. Vous verrez des soutiens-gorge, mais vous ne verrez pas de moustache. C'était juste une façon pour moi de montrer en fait des éléments qui sont symboliques à la fois d'un sexe en fait et qui à la fois sont aussi symboliques du faux, c'est-à-dire les seins, les faux seins. On peut s'imaginer tout ce qu'il y a de faux derrière, les soutiens-gorge rembourrés, les moustaches postiches. Et en fait, c'est exactement ça. Cette pièce, elle tourne autour de ça. Enfin, moi, c'est le traitement que j'en ai fait en tout cas. C'est-à-dire tous ces personnages grotesques, je les appuie par des costumes grotesques. Donc, c'est-à-dire que les personnages auront des seins énormes, des fesses énormes, des dos, des ventres, des sexes. Enfin, voilà, il y a tout qui y passe. Ouais. Tout le monde y passe.
D'accord, donc ça vient renforcer un peu le côté grotesque dont tu nous parlais à l'instant, du coup.
Pourquoi avoir fait ce choix ambitieux et surprenant de jouer en festive ?
Alors,
oui,
la question
chers
de
auditeurs,
la festive.
C'est jouer en festive.
Oui, parce que ce spectacle se joue en festive et pas en théâtre cantor. Parce que déjà, c'est une volonté que j'ai. C'est-à-dire que j'aime bien le théâtre, mais je pense que le théâtre entretient une distance avec le public. Et moi, je sais qu'en tant que spectateur, je préfère très nettement être le nez dans le jeu des comédiens. Mmh. Et dans l'énergie de la scène. Et pour ça, j'ai choisi la festive. Et en plus, la festive, elle a une configuration spatiale un peu bizarroïde.
Développe.
Qui permet... en fait, il n'y a pas d'office un espace de jeu et un espace de spectateur.
Oui.
Donc on n'est jamais à l'abri.
Oui, parce que le podium serait trop petit pour mettre les acteurs. Donc...
C'est ça. C'est exactement ça. Du coup, j'ai accentué ça en mettant le public de deux côtés. Donc la scène va être au milieu et là, il n'y aura pas d'échappatoire pour les comédiens. Ils seront au milieu, ils seront cernés par les spectateurs d'un côté et de l'autre.
Donc ça, c'est pour le dispositif scénique.
Voilà.
Et tu disais tout à l'heure que tu aimes bien les mises en scène où on a le nez dans le jeu des acteurs. Tu as des sources d'inspiration de ce côté-là ? C'est peut-être des choses que tu as eu l'occasion de voir en tant que spectateur ?
Oui, en fait, c'est surtout par rapport à des spectacles que je vois dans des salles. Je me rends compte... Peu importe la qualité du spectacle, je profite 100 fois plus d'un spectacle quand il a lieu dans une petite salle, dans un petit théâtre. J'ai jamais vu de théâtre bifrontal ou circulaire, mais je joue dans du théâtre circulaire par contre. Mais je sais que dans les petites salles, il y a une proximité, l'atmosphère devient palpable, alors que dans les grands théâtres, on est très vite à l'abri en fait.
Donc petite question pour finir sur ce qu'il en est du contenu de la pièce. Tu parles depuis tout à l'heure beaucoup de l'enjeu réflexif qu'il y a derrière, à la fois du point de vue de l'identité, t'as parlé de ça, t'as parlé d'un contenu politique latent, mais t'as pas beaucoup développé à chaque fois. Est-ce que c'est volontaire ? Est-ce que t'as peur de trop, biaiser la lecture du spectateur ?
Alors non, j'ai pas peur de trop biaiser la lecture du spectateur, mais... Effectivement, je prends pas vraiment position, parce que pour moi, toutes les positions, enfin, le fait de pas prendre position est aussi une position. Par contre, sur la question de l'identité, je pense que quand même je la traite, c'est-à-dire par rapport au fait que les personnages soient complètement surfaits et qu'en fait, au fur et à mesure de la pièce, ils se déconstruisent. Donc là, ça parle du dénudement de chaque personnalité, des vices aussi. Mais sur la question politique, effectivement, même en fait, là, à l'étape où on en est, C'est-à-dire qu'on est quand même à une semaine de leur présentation et la fin n'est toujours pas fixée. C'est-à-dire que je ne sais toujours pas si je vais respecter ou non la fin du livre.
On est encore plus sur du flux tendu que pour le joueur, dis donc.
Disons-nous maintenant un peu plus sur ton parcours personnel. Comment en es-tu venu à la mise en scène ?
Déjà, qui es-tu ?
Qui es-tu ?
Que fais-tu dans la vie ?
Qui es-tu, Yann ?
Je suis. Alors, je suis Yann. Je suis. J'ai un parcours un peu bizarre, si on peut dire. Oui, je pense qu'il est bizarre quand même. J'étais en biologie, donc voilà, aucun rapport. Puis après, j'ai commencé le théâtre après la biologie. J'ai été comédien ensuite, donc pendant 3 ans. Donc maintenant, ça fait au total 5 ans. Et puis après, j'ai commencé aussi la fac en parallèle. Et puis maintenant, je suis ici, donc en dramaturgie à l'ENS. Mais j'ai fait jusqu'à présent que du jeu sur scène. Et au fur et à mesure, en fait, par rapport aux œuvres qu'on rencontre, aux gens qu'on rencontre, il y a des envies qui naissent. Et ces envies, c'est pas d'être sur scène, c'est de créer, de voir des choses se créer sur scène. Et donc, cette envie, c'est de là qu'est née cette envie de faire de la mise en scène.
D'accord, donc c'est ta première mise en scène.
Exactement.
Et du coup, quels sont les acteurs et les actrices autour de toi pour cette première mise en scène ?
Alors, les acteurs et les actrices, c'est des gens qui sont venus volontairement.
Ils n'ont pas été forcés en mode soviétique et tout ?
Enfin, non, ils n'ont pas été forcés, mais il n'y a pas eu de casting, il n'y a pas eu d'audition, quoi que ce soit. Vraiment, j'ai fait le choix de prendre les gens qui voulaient venir, en fait. Et ensuite, moi, de faire avec ces personnes-là. Donc, ça a demandé, effectivement, des adaptations de textes, etc. Et puis après, c'est un travail sur les acteurs, parce que je pense que n'importe qui, de toute façon, est acteur, qu'il n'y a pas besoin d'être acteur. De faire des écoles ou je ne sais pas quoi pour être acteur. Et du coup, c'est quelque chose que je défends et que je pense sincèrement. Quoi.
D'accord. Et du coup, il y aura combien de personnes sur scène ?
Alors, nous sommes 6 au total. Donc, je fais partie. Je suis également comédien.
D'accord.
Ce qui est une difficulté supplémentaire pour la mise en scène. Mais c'est un problème qui s'est posé là tout récemment. Donc, j'ai été obligé de prendre part au plateau également.
Merci beaucoup, Yann, de nous avoir accordé cette entrevue.
Eh bien, merci.
Et merci encore Marie à la régie pour ce travail invisible et pourtant si important. Si cette émission vous a plu et vous a donné envie de voir la pièce, n'hésitez donc pas à vous rendre en festive pour profiter de cette adaptation qui promet de nous faire vivre un très 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 bon moment. Donc les vendredis 7, samedi 8 et lundi 10 avril à 20h30 et le dimanche 9 avril à 19h. 4 représentations en plus, hein, c'est
ouais.
rare. C'est...
Oui, parce qu'on est en festive, c'est pour ça.
D'accord. Et donc comme d'habitude, les places sont disponibles auprès de notre partenaire En Scène et vous ne manquez pas dans le prochain numéro d'En Spectateur, le retour critique.
Voilà, et je tiens à préciser qu'il est préférable de réserver étant donné qu'on aura un nombre de places très limité comparé à
forcément.
Ce qu'il peut y avoir en comptoir.
D'accord, okay. C'est important de préciser en effet.
Voilà.
Avec Transistor ou ailleurs, n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra ou au ballet.
Bref, n'oubliez pas de vivre En Spectateur.